Le piège, chapitre 10. Ils dînèrent dans le restaurant où ils avaient déjeuné. Décidément, cet établissement s'était attiré les bonnes grâces de la police. Bridé se demandait ce qu'on comptait faire de lui. Ses compagnons étaient très gentils. Ils lui témoignaient beaucoup d'égards. C'est ainsi qu'ils le laissèrent choisir une table. On leur servit un apéritif, puis un autre en cachette, car ce n'était pas le jour. Bien que sa situation fût plutôt moins bonne qu'à midi, Bridé éprouvait un soulagement. La journée était finie. Il ne pourrait rien lui arriver avant le lendemain. Il engagea la conversation avec ses gardiens. Ils n'avaient pas l'air de considérer leur prisonnier comme un personnage dangereux. « Cela facilite leur tâche », pensa Bridé. Il semblait ne pas douter qu'il serait relâché, et dans les attentions qu'ils avaient pour lui, on devinait qu'il cherchait à gagner sa sympathie. Bridé avait peut-être de hautes protections. Ils obéissaient à leur chef, mais ils n'oubliaient pas que, par on ne sait quel détour, la situation pouvait se retourner. Le soir, l'atmosphère est toujours plus cordiale. À la fin du dîner, le patron vint s'asseoir un instant à leur table. Bridé était maintenant assez optimiste. Rien ne distinguait son groupe des groupes voisins. Ses inspecteurs étaient quand même de braves gens. Ils se conduisaient de plus en plus comme si Bridé allait être libéré le lendemain, comme s'il fallait profiter des circonstances pour faire naître une amitié qui, plus tard, pourrait être utile. Ils en vinrent à parler de ce qu'ils allaient faire de Bridé la nuit, mais sur le ton d'hommes qui, eux aussi, sont obligés de découcher et comme si, à eux trois, la même aventure fâcheuse était arrivée. Après le dîner, ils n'en conduisirent pas moins Bridé au commissariat voisin, prenant un air de gens ennuyés de rentrer si tôt. Ils dirent qu'ils la trouvaient saumâtre. Il était 8h30. Il faisait nuit depuis longtemps. 5 ou 6 agents en uniforme bavardaient dans la salle de garde. Quand les nouveaux arrivants se présentèrent, ils ne bougèrent pas. Bourgoin demanda si le chef était là. Sur la réponse négative d'un agent, il ne parut pas contrarié. « Nous venons passer la nuit, » dit-il. Les agents regardèrent Bridé, non pas comme un délinquant ou un criminel ordinaire, mais comme un homme tombé dans une disgrâce provisoire et dont on ne pouvait savoir si demain déjà il ne retrouverait pas la faveur perdue. L'un d'eux, pourtant, gardait une expression mauvaise. On devinait qu'il avait une haine profonde pour les hommes, sans titre particulier qui approchait le pouvoir. Bridé en était un à ses yeux. C'étaient ces hommes qui avaient perdu la guerre, ces hommes qui, en ce moment encore, au lieu d'être conduits directement au poteau d'exécution, continuaient à faire peur et étaient traités avec égard, car, au fond, ils étaient toujours puissants, même entre les mains de la police. Les agents firent de la place aux nouveaux venus. Celui qui avait regardé méchamment Bridé se mit à parler à voix basse. Ses collègues eurent l'air embarrassés, puis, se faisant brusquement moins aimables, se réunirent dans un coin du poste. Bourgoin leur demanda s'ils n'avaient pas un jeu de cartes. Ils répondirent avec mauvaise volonté. « Je vais tâcher d'en trouver un, » dit l'autre inspecteur. Il revint un peu après avec un jeu tout neuf qu'il avait dû acheter dans un bureau de tabac voisin. Cette liberté donnée à ses gardiens d'engager de petites dépenses pour son confort ou sa distraction parut à Bridé très inquiétante. Elle participait de ces attentions venant de haut qui donnent à l'inculpation quelque chose de plus grave encore. On eût dit qu'au degré où Bridé était placé, il importait peu qu'il mangeât du poulet ou non. On n'en voulait pas à sa personne physique. Le problème était beaucoup plus sérieux. Bridé ne savait jouer à aucun jeu. Les policiers lui apprirent la belote. Ce fut pénible. Malgré toute sa bonne volonté, il ne parvint à retenir aucune règle, tant il était préoccupé. Et pendant plus d'une heure, il eut la sensation désagréable, devant son incapacité à apprendre, d'étaler aux yeux de tous le souci qui le rongeait intérieurement. À la fin, il dit en plaisantant, « Moi, je m'arrête. Jouez tous les deux. Je vais arbitrer. » Le secrétaire du commissaire entra dans la salle à ce moment. Il s'approcha des trois hommes, mais ne regarda pas Bridé. « Qui est-ce qui gagne ? » demanda-t-il. Puis il se retira sans paraître s'être aperçu de la présence du prisonnier. Il semblait que celle-ci n'eût rien d'exceptionnel. On devait souvent amener ici un inconnu passer la nuit. Par son indifférence pour la personne surveillée, le secrétaire voulait visiblement montrer qu'il n'anticipait pas sur l'avenir et qu'il se tenait à distance de ces camaraderies accidentelles dont on ne pouvait prévoir les conséquences. À 10 heures, deux agents cyclistes qui revenaient d'une tournée rentrèrent dans le poste. Ils ne parlèrent pas aux inspecteurs. Bridé les surprit en train de demander lequel des trois était l'inculpé. On dut le leur expliquer, car il s'aperçut peu après que ces cyclistes l'examinaient avec curiosité. Une demi-heure plus tard, les deux inspecteurs s'arrêtèrent de jouer. « Et les couvertures ?» demanda l'un d'eux. « C'est que nous n'en avons pas !» dit un agent avec cette mauvaise humeur des employés pour qui le plus insignifiant travail qui n'entre pas dans ce qu'ils appellent leurs attributions apparaît un monde. « Mais nous en avons besoin, » dit l'inspecteur. « Monsieur ne va pas passer la nuit comme ça, » dit Bourgoin. Cette défense que prenaient de lui les inspecteurs fit encore très mauvais effet sur Bridé. Elle était tellement artificielle. Elle avait beau paraître sincère, quand on savait dans quelle situation Bridé se trouvait vis-à-vis de ses gardiens, il était difficile de la prendre au sérieux. Et il écouta avec la plus complète indifférence les propos aigres doux qui s'élevèrent. Soudain, le secrétaire reparut. « Venez un instant, » dit-il à Bourgoin. Bridé était de plus en plus nerveux. Il avait l'impression que tout cela était une comédie des inspecteurs pour arriver à se débarrasser de lui en l'enfermant dans une cellule afin de pouvoir rentrer chez eux tranquillement jusqu'au matin. Il n'en avait évidemment pas la consigne, mais ils allaient faire semblant d'y avoir été obligés. Peu après, Bourgoin revint. « Vous pouvez les garder, vos couvertures, » dit-il aux agents. Puis, se tournant vers son collègue et Bridé, il ajouta « Le patron nous demande. »« Maintenant ?» s'écria avec étonnement l'inspecteur. « Oui, c'est comme ça. » Bridé regarda les deux hommes pour tâcher de comprendre à leur visage si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. « Comment ça se fait-il » demanda-t-il en deux fois. « Nous n'en savons rien. »« C'est curieux, » constata Bridé. Il sentit tout à coup que la prétendue amitié qui s'était établie entre les inspecteurs et lui venait de s'évanouir. Que maintenant, contrairement à tout à l'heure, ses gardiens ne faisaient plus qu'exécuter des ordres, qu'ils étaient redevenus ce pour quoi ils étaient payés. En sortant dans la nuit, il fut pris de peur. C'était déjà pénible en plein jour d'être conduit d'un bureau à un autre, d'attendre, de subir des interrogatoires. Mais la nuit, alors que toute activité semblait devoir être suspendue, cela avait quelque chose d'infiniment plus menaçant. Le jour, tout le petit personnel, tous ces gens qui allaient et venaient au cœur même de la police, étaient une sorte de garantie. Mais à présent que les bureaux étaient déserts, que tout le monde était couché, il était comme livré à la discrétion de quelques personnes. « Ça arrive souvent, » demanda Bridé d'un air indifférent, « que M. Saussier interroge les gens la nuit ?»« C'est la première fois, » dit un inspecteur. Bridé sentit une lourdeur dans les cuisses. « Qu'est-ce qui s'est passé, croyez-vous ? » ?»« Je n'en sais rien, » dit l'inspecteur. « Nous ne faisons qu'obéir. » « Vous ne me quitterez pas !» Cette parole avait échappé à Bridé. Dans sa détresse, devant le mystère de ce qui l'attendait dans les locaux de la police désert, il n'avait pu s'empêcher de s'accrocher à ces deux hommes qui, s'ils étaient des indifférents, avaient malgré tout une certaine conscience du bien et du mal. Rue Lucas, les fenêtres étaient obscures. « Il y a erreur, » dit un inspecteur. « C'est pas possible !» Tout le monde est parti. Va voir. » L'autre inspecteur pénétra dans la maison. Il revint un peu après. « Si, si, on nous attend. Ils sont dans le bureau de Caruel. » Les deux policiers firent passer Bridé devant eux, puis refermèrent la porte. Il n'y avait pas de minuterie. À la lueur d'un briquet, ils s'engagèrent dans l'escalier. Bridé dut s'appuyer un instant à la rampe. « Allez, allez, montez, faites ce que l'on vous dit !» cria Bourgoin, qui avait changé brusquement. Ce dernier était resté en arrière. Bridé venait de l'entendre dire à son collègue que Saussier n'était pas content de ce que, lui, Bourgoin, fut venu demander si l'ordre d'amener le prisonnier avait été vraiment donné. « Salaud !» murmura Bridé. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Bourgoin. « C'est haut !» répondit Bridé. « Faites attention, je vous préviens que je ne vous manquerai pas, moi !» Au premier, Bridé s'arrêta. « Encore un étage, » dit Bourgoin, « et ne faites pas le malin !» Alors, « ils ont toute la maison ?» s'écria Bridé. « L'entresol, le premier, le deuxième ? Ne vous occupez pas de ça !» L'appartement était obscur. Au fond du couloir, on apercevait cependant un peu de lumière. Saussier et Keruel étaient assis dans une petite pièce d'aspect modeste que seule la lampe sur le bureau éclairait. Ils avaient l'air de paisibles directeurs d'une maison de commerce qui vérifient les comptes en l'absence des employés. « Entrez, monsieur Bridé, » dit Saussier avec une amabilité inattendue. On eût dit qu'un fait nouveau en faveur de Bridé s'était produit et que, n'en ayant jamais douté, il était heureux de lui parler comme il eût toujours voulu pouvoir le faire. « Nous venons d'avoir, monsieur de Keruel, monsieur Houtenin et moi, une longue conversation avec votre femme, » continua Saussier. « Avec ma femme ? » s'exclama Bridé. « Oui, mais laissez-moi finir. Ce qu'elle nous a dit concorde parfaitement avec ce que vous nous avez dit vous-même. J'ai pensé que vous seriez heureux de la revoir dès ce soir, » continua Saussier, avec ce respect un peu condescendant qu'ont les officiers pour les devoirs conjugaux de leurs hommes. « C'est pour cela que, malgré l'heure tardive, je vous ai fait venir. Certain que, pour un tel motif, vous ne m'en voudriez pas. « Votre femme est descendue à l'hôtel. « Attendez, l'hôtel des étrangers, » dit Keruel. « Elle vous attend. « La seule chose que je vous demanderai, monsieur Bridé, « c'est de bien vouloir passer demain matin, « pas ici, à l'étage au-dessous. « Monsieur Schlesinger, que je n'ai pu prévenir, « a encore certaines petites questions à régler avec vous. « D'ailleurs, je serai là. « Mais comment se fait-il que ma femme soit à Vichy ? « Vous le lui demanderez vous-même, tout à l'heure. « Elle vous le dira mieux que moi, » répondit Saussier avec un sourire plein de sous-entendus. C'était tellement évident que Bridé n'insista pas. « Alors, à demain, monsieur Bridé. Rappelez à votre femme qu'elle nous a promis de venir également. » Bridé serra la main de tout le monde. « Je suis heureux pour vous et pour moi, » dit Bourgoin en le reconduisant jusqu'à la porte de l'appartement. « Ce sont des corvées dont nous n'aimons pas beaucoup être chargés. Nous voulons bien défendre l'ordre, mais nous ne voulons pas être des instruments de vengeance politique. Vous me comprenez, n'est-ce pas, monsieur Bridé ? Chacun doit faire son travail. »